de Noël, hein. En tout cas, ça approche vite. Peut-être vous attendez ça avec impatience. Que vous soyez vieux, que vous soyez jeune, que vous soyez peut-être des petits-enfants. Et alors, peut-être vous avez vu des tableaux qui représentent une scène biblique particulière où il y avait plusieurs générations qui étaient réunies autour de l'enfant Jésus. C'est ce que je vous propose de voir, justement. Un tableau qui est dans la Bible, dans l'évangile de Luc, chapitre 1, chapitre 2, verset 21 à 39. Chapitre 2, verset 31 à 39. Un petit groupe est réuni là, autour de l'enfant Jésus qui vient de naître. Il s'agit de Marie, Joseph, un jeune couple, et puis Siméon et Anne. C'était pas un couple, mais c'était des personnes âgées. Tout ce monde réuni autour de l'enfant Jésus. Donc je vais lire, et avant ça je vais prier. Seigneur, je te remercie encore parce que ta parole elle est pour tous, Seigneur, et tu t'es donné pour nous, Seigneur, je, en tant que petit bébé, accessible, Seigneur. Et merci, Seigneur. Je te prie de rendre nos cœurs disponible à ta parole. Je mets vraiment tout souci, Seigneur, à la porte de cette église. Et Seigneur, voilà, qu'on soit pleinement disposé à recevoir ta parole, ton enseignement. Seigneur, merci encore de m'assister. Merci. Et d'être avec chacun pour recevoir ta parole. En Jésus-Christ, amen. Amen. Luc 2, 21 à 39. Le huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Amen. Jusqu'ici, parole de Dieu. Voilà donc une scène que, effectivement, des peintres ont illustrée. Hein, une scène touchante, où on voit plusieurs générations réunies au même moment, et bien sûr au même endroit, au temple. Il s'agit du jeune couple, Marie et Joseph. Jeune couple dans la force de l'âge. Le bébé, un nouveau-né qui vient de naître, pas n'importe lequel, celui qui vient de naître de Marie et du Saint-Esprit, et qui porte en lui l'espoir pour le monde entier. Il s'agit de l'enfant Jésus, le Fils de Dieu. Et puis, deux personnes très âgées, un homme et une femme, Siméon et Anne, qui sont des témoignages vivants à l'époque, à la fois du passé et ayant un regard tourné vers l'avenir. Un tableau qui évoque, avec tout ce monde réuni, qui évoque quoi? Qui évoque la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu passé, la fidélité de Dieu présente et la fidélité de Dieu à venir. Dans une même scène, avec au centre Jésus, le Fils de Dieu. Et toutes ces personnes ont manifesté de la fidélité à Dieu. C'est ce que fait ressortir ce texte. Pourquoi est-ce que ces personnes ont été fidèles à Dieu? Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu est fidèle et que c'est parce que Dieu est fidèle, c'est sa fidélité qui peut nous garder fidèles, fidèles à lui. C'est ce que je vous propose de voir. En trois points, premièrement, on verra la fidélité de Dieu, la fidélité à Dieu se manifeste dans l'obéissance. Deuxièmement, nous verrons la fidélité de Dieu, comment elle se manifeste. Et troisièmement, on verra la fidélité à Dieu qui se manifeste dans le service et dans l'attente. La fidélité de Dieu manifestée dans le service et dans l'attente. Donc, premièrement, voyons la fidélité à Dieu dans l'obéissance. Marie, donc, qui se disait elle-même l'humble servante du Seigneur, elle a été choisie, pas en fonction de ses mérites, elle a été choisie pour porter le Fils de Dieu, rien de moins. Elle a été choisie. Mais c'est pas parce qu'elle a été choisie qu'elle se dispense de ce que prescrivait la loi mosaïque. Son élection n'a rien enlevé à son obéissance. Avec son mari Joseph, ils étaient pieux, ils servaient Dieu, ils allaient au temple, ils accomplissaient scrupuleusement la loi du Seigneur donnée à Moïse. Et il y avait notamment trois rites qui étaient exigés par la loi pour une naissance. Premièrement, l'enfant devait être circoncis le huitième jour et recevoir son nom à ce moment-là, ce qu'ils ont fait. Deuxièmement, au 40e jour après la naissance, toujours selon la loi de Moïse, eh bien, la mère devait aller au temple pour offrir les sacrifices pour sa purification. Et Marie n'en était pas exempte, tout en ayant porté le Fils de Dieu, tout en ayant été choisie, elle n'en était pas exempte et elle s'est soumise à la loi, même si elle a porté Jésus, le Fils parfait de Dieu. Et toujours selon la loi, Joseph et Marie ont offert donc deux tourterelles ou deux pigeons. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'offrir un agneau. La loi prévoyait des cas où les personnes étaient pauvres. Alors, Joseph et Marie, c'était des personnes pieuses. Mais ici, c'est pas parce qu'on cherche à plaire à Dieu, que vous avez cherché à avoir une vie de piété, que vous allez être forcément dans l'or et l'argent, que vous allez avoir... Là, ici, on a l'exemple d'un couple de jeunes qui sont pieux, qui aiment le Seigneur, qui suivent le Seigneur, et qui pourtant étaient pauvres, et qui pourtant vivaient dans la pauvreté. Voilà, une vie de piété, selon Dieu, ne garantit pas la richesse en retour, ici-bas. Mais ô combien, rester fidèle, c'est la véritable richesse. Marie a accouché dans une étable, très humblement. Marie et Joseph étaient pauvres, mais ils étaient riches. Ils étaient ô combien riches d'avoir accueilli le premier Jésus, le Fils de Dieu, dans leur famille. C'est la fidélité de Dieu qui les gardait fidèles. C'est la fidélité de Dieu qui les gardait fidèles dans l'obéissance. Et il y avait un troisième rite exigé par la loi après une naissance. Et ce rite concernait l'enfant directement. Parce que selon la loi mosaïque, sur les fils, il y avait une loi sur les fils premiers-nés en particulier. Eh bien, l'enfant devait être présenté au temple 33 jours après la circoncision. Et il devait être racheté par une offrande pour être consacré à Dieu. Alors, ça peut sembler compliqué, mais on peut comprendre cette loi que le Seigneur a donnée. Selon le verset 23 nous dit, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Alors, pour comprendre pourquoi cette consécration, pourquoi elle est là, eh bien, il nous faut remonter à l'Ancien Testament qui nous éclaire sur bien des points. Dieu est fidèle et c'est lui qui a commencé, c'est lui qui a montré le premier sa fidélité. Comment, en s'engageant lui-même envers son peuple, qu'il a délivré de l'esclavage des Égyptiens. Et cette délivrance a eu un prix. Elle a eu un prix. Il s'agissait de la vie des premiers-nés égyptiens lors de la 10e plaie d'Égypte. Ça a eu un prix de délivrer Israël des Égyptiens. Il fallait effectivement. Il y a eu la 10e plaie où les premiers-nés ont été, sacrifiés. Et en échange, il y a eu un échange là. En échange de ces premiers-nés, Dieu exigeait pour lui les premiers-nés des Israélites. Il voulait que les premiers-nés des Israélites lui soient consacrés. Tout premier-né des Juifs appartenait à l'Éternel et devait être saint, exclusivement consacré à son service. Et puis par la suite, tous les premiers-nés devaient être rachetés pour Dieu. Exode 13:13 nous dit « Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. » Pour quelle raison ce rachat ? Alors déjà, les premiers-nés, ils appartenaient déjà à Dieu. Pour le prix des premiers-nés sacrifiés en Égypte. Et ensuite, la loi demandait à racheter tout premier-né de l'homme, des Israélites. Pourquoi ce rachat ? C'était le signe que tout le peuple d'Israël, qui avait déjà été racheté par Dieu, il avait été délivré de l'esclavage, les premiers-nés appartenaient à Dieu, c'était le signe que tout Israël devait, en retour de ce que Dieu avait fait, s'engager en retour à lui être consacré à son tour, à lui être fidèle. Et cet engagement d'Israël se manifestait en rachetant leur premier-né, à prix d'argent. C'était un signe que Israël s'engageait à consacrer leurs enfants à Dieu. Alors, le premier-né, Jésus, a été présenté au Seigneur pour lui être consacré, lui qui était sans péché. Il n'avait pas non plus besoin d'être racheté du péché et de la mort. Si lui, le premier-né Jésus, a été présenté au Seigneur pour être consacré, lui qui n'avait pas de péché, on peut voir là un encouragement pour tous les parents. N'oublions pas que les enfants sont un cadeau de l'Éternel. Tout enfant qui naît, c'est un don de l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu demande là ? Il demande qu'on lui consacre ses enfants. Qu'on les lui consacre. Pour qu'ils soient pour lui, pour qu'ils mènent une vie selon Dieu. C'est un juste retour de rendre à Dieu ce qu'il nous a donné. De les lui consacrer, bien sûr, dans la prière, par une vie qui témoigne de l'amour du Seigneur. C'est un juste retour pour lui, pour lui demander de les racheter. Voilà. Les consacrer au Seigneur, c'est quoi ? C'est lui demander de racheter les enfants, nos enfants, de les racheter du péché. Non seulement nos péchés, mais les péchés de nos enfants. Et de rendre nos enfants, vos enfants, saints pour lui-même, c'est un juste retour. Donc vous pouvez prier pour vos enfants, pour les consacrer à Dieu, pour qu'ils soient rachetés de leurs péchés jusqu'à ce qu'ils prennent eux-mêmes la décision d'accepter le Seigneur. Marie et Joseph vont aller de surprise en surprise dans ce récit. Parce qu'ils sont allés au temple, d'abord leur fidélité va payer en retour. Ils sont allés au temple pour accomplir fidèlement les obligations de la loi mosaïque. Et là, ils vont y faire deux rencontres. On peut dire deux rendez-vous divins que Dieu leur avait fixés. Ils ne le savaient pas, mais leur piété va payer dans leur vie. C'est pour employer un langage mercantile. Ils vont faire deux rencontres, deux rendez-vous divins qui vont les émerveiller en leur faisant découvrir un peu plus qui est ce bébé Jésus dont Marie a accouché. C'est Dieu qui a fait se rencontrer Marie et Joseph avec Siméon et Anne. C'est Dieu qui a organisé ce rendez-vous divin, son rendez-vous. C'est lui qui les a fait se rencontrer au même instant, à la même heure et au même endroit au temple. Pourquoi ? Pourquoi ce rendez-vous divin ? Ils avaient tous en commun, ces quatre-là, ils avaient en commun leur vie de piété. Ils avaient, Ils avaient plusieurs points communs. Leur piété, une vie où ils aimaient Dieu, ils l'ont manifesté par leur obéissance. Ils avaient une vie de fidélité. Et puis aussi, ils étaient humbles. Ils étaient humbles et ils aimaient Dieu et ils vivaient pour lui. Aussi bien Marie et Joseph que Anne et Siméon. Alors si vous aimez Dieu, que vous soyez seul ou en couple, attendez-vous à des surprises, à des rendez-vous divins que Dieu a préparés. Alors, arrêtons-nous un instant sur Siméon. Que nous apprend ce texte sur Siméon ? Il était juste et il était pieux, nous dit le texte au verset 25. Il aimait Dieu. Le prénom Siméon veut dire qui écoute, qui entend. Il avait écouté Dieu. Il connaissait les textes saints, il connaissait l'Écriture. Il avait écouté Dieu lui faire la promesse qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Ce qui suppose qu'il était très âgé. Il était âgé plus près de la fin que du début de sa vie. Et Siméon, il attendait. Il attendait avec foi l'accomplissement de cette promesse. Et le temps était venu à ce moment-là. Le texte nous dit que l'Esprit Saint était sur lui. Et là, on voit le travail du Saint-Esprit. On a là un exemple de l'œuvre de l'Esprit Saint que tout croyant nous avons reçu lorsque nous avons accepté Jésus. Le Saint-Esprit, comme il a guidé Siméon, il nous guide. Il nous guide. C'est l'Esprit Saint qui a conduit Siméon vers ce petit enfant, au moment même où les parents, Marie et Joseph, Joseph père adoptif, où les parents apportèrent Jésus dans le temple. C'est l'Esprit Saint qui nous éclaire, qui nous donne le discernement. Et on en a besoin, du discernement, surtout aujourd'hui. Parce que c'est par l'Esprit Saint que Siméon a identifié ce petit enfant comme étant le sauveur tant attendu. Dieu lui a parlé. Et aujourd'hui, on a besoin de l'Esprit Saint. Et il est à notre disposition. Nous l'avons, mais nous pouvons aussi le demander. Pourquoi ? Eh bien, nous avons besoin de discernement. Aujourd'hui, nous sommes dans une société saturée d'informations. On entend tout, beaucoup de choses, tout et parfois n'importe quoi. Et la vérité parfois, est mélangée à l'erreur. Et vraiment, on a besoin de discernement. Dans une société qui est plongée dans les médias, on a besoin de discernement pour distinguer le vrai du faux, la vérité de l'erreur, pour identifier et rejeter tout esprit de séduction dans ce monde. Et aussi pour accueillir, identifier et accueillir ce qui vient de Dieu par Jésus. Et c'est aussi l'Esprit Saint, le travail de l'Esprit Saint, il éclaire, il guide. Et aussi, il donne la patience. C'est encore l'Esprit Saint qui avait donné au vieillard Siméon la patience pour attendre l'accomplissement des promesses divines. Et nous aussi, est-ce que vous attendez le Seigneur ? Il va revenir. Est-ce que vous l'attendez comme s'il allait revenir là, maintenant ? Jésus revient bientôt. Nous avons besoin de patience pour l'attendre. D'autant plus en cette période de crise. Pas grand-chose qui va bien, hein, surtout si on allume les infos. Il y a quand même des choses qui vont bien aussi. Ça, on nous les dit peut-être un peu moins. Mais en tout cas, le monde ne va pas bien. Et on a besoin de patience pour attendre fidèlement le retour du Seigneur. Et c'est l'Esprit Saint qui nous donne cette patience. Même si ça ne va pas comme on veut dans ce monde. C'est l'Esprit Saint aussi qui nous donne la maîtrise de soi. Et pendant le déménagement qui s'est passé, nous sommes pijacois, ça y est, hein, parenthèse. Et on loue le Seigneur. C'était une journée vraiment marathon. Et je me suis rendu compte que parfois, si on prend pas garde, eh bien, on peut céder à la colère, parce que ça s'est pas bien passé avec les déménageurs. Et effectivement, eh bien, j'avais vraiment besoin de la maîtrise de soi que donne l'Esprit Saint. Et là, la fatigue, les retards accumulés, les erreurs accumulées aussi bien du côté des déménageurs que moi aussi, j'avais fait une erreur aussi avec le notaire. J'avais oublié d'envoyer un document, ce qui a retardé la signature. Et pendant ce temps, les déménageurs attendaient. Donc, un concours de circonstances qui font que ça a monté, la tension a monté. Eh bien, et effectivement, ça peut nous arriver de perdre patience. Et c'est l'Esprit Saint qui nous donne la maîtrise de soi. Nous avons besoin à tout instant de lui. Et merci au Seigneur parce qu'il fait grâce. En tout cas, ici, dans ce cas présent, le travail du Saint-Esprit, c'était de donner la patience. La patience à Siméon, pendant toute sa vie, il a attendu et il a été récompensé. Et c'est aussi l'Esprit Saint qui a donné un autre fruit de l'Esprit, la joie. Il a donné la joie à Siméon à la vue de l'enfant Jésus. Il a loué Dieu dans son cantique qu'on appelle le cantique de Siméon, qui a été mis en musique. D'ailleurs, il y a un chant qu'on fera pas cet après-midi. Mais en tout cas, il existe des cantiques et il a loué Dieu. Et la joie, c'est aussi le fruit de l'Esprit. Cette scène, on peut l'imaginer, même s'il y a des tableaux qui l'ont illustré. Qu'a fait Siméon ? Ce qu'on fait avec un petit bébé, on le reçoit. Il a reçu Jésus, il a béni Dieu et il a rendu grâce. Et voilà quel devrait être notre cheminement à nous, de tout chrétien. Ça commence par recevoir le Seigneur. Le recevoir, sans aucun mérite. Voilà. Et un bébé, il se reçoit, n'est-ce pas ? Là, Jésus était petit bébé. Il a reçu Jésus, il a béni Dieu, il lui a rendu grâce. Siméon ne voulait pas voir la mort avant d'avoir vu Christ, qui est la vie. Il ne voulait pas voir la mort avant d'avoir vu la vie, Jésus, qui est en Jésus. Et c'est le cheminement de tout chrétien. D'abord recevoir Jésus comme son sauveur, puis vivre en l'attendant jusqu'à la mort. À moins qu'il ne revienne avant. Et puis là, on n'a plus de raison d'avoir peur de la mort. Comme en témoigne Siméon, il avait reçu le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'il pouvait mourir en paix. Et quand on reçoit le Seigneur, il n'y a pas de raison d'avoir peur de la mort. Son cantique témoigne, mon deuxième point, de la fidélité de Dieu. Dans son cantique, cantique de Siméon, versets 31 et 32, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que Siméon attendait à la fois, qu'est-ce qu'il attendait ? Il attendait à la fois la consolation d'Israël, du peuple d'Israël, le salut de Dieu pour tous les peuples, la lumière pour les nations et la gloire d'Israël. Personne n'est oublié. Il attendait la gloire d'Israël. Et la gloire d'Israël, c'est qui ? C'est Jésus qui est sorti d'Israël. Pour qui ? Pas seulement pour Israël, mais pour le monde entier. Pour le monde entier. Siméon attendait tout cela parce que Dieu l'avait promis près de 700 ans plus tôt dans les prophéties d'Ésaïe, que Siméon devait connaître. Voici ce que dit Ésaïe 40, verset 1. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Siméon attendait cette consolation. Ésaïe 49, verset 6, il dit « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob. » Et pour ramener les restes d'Israël, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'était peu de s'arrêter à Israël. Jésus est venu pour le monde entier. Eh bien, Jésus est l'accomplissement de tout cela. Pourquoi ? Parce que Dieu est fidèle. Oh, parfois ça prend du temps. Ça a pris 700 ans après cette prophétie. Mais Dieu est fidèle, il accomplit toujours ses promesses. Le nom de Jésus veut dire « Dieu sauve ». Siméon dit qu'il est la gloire d'Israël. Effectivement, il est la gloire d'Israël parce que Jésus, le Messie, le Sauveur, il est sorti d'Israël. Il est la gloire d'Israël, Jésus. C'est Israël qui a donné Jésus au monde. Alors le cantique de Siméon annonce l'espérance pour nous tous, quelle que soit notre nationalité, juif ou non-juif. Alors oui, Joseph et Marie sont émerveillés en entendant Siméon prophétiser au sujet de cet enfant. Ils sont étonnés. Leur admiration à ce moment-là n'allait qu'en grandissant. Preuve qu'ils ne savaient pas encore tout sur Jésus. Marie avait reçu des révélations merveilleuses. Elle savait que Jésus était le Fils de Dieu. L'ange Gabriel lui avait annoncé avant la naissance. Mais elle ne savait pas tout. Dieu ne lui avait pas encore tout révélé. Et là, eh bien, Marie apprend bien des choses sur son fils, Jésus, qui ne lui avait pas encore été révélé. Leur étonnement à Marie et Joseph, leur admiration allait en grandissant, et il y a de quoi. Ça dépassait tout ce qu'ils savaient déjà concernant le petit enfant, et que Dieu leur avait révélé avant la naissance. Ce que Dieu leur avait révélé avant la naissance, ça concernait juste Israël. Je relis ce que l'ange avait dit à Marie en Luc 1, 33, en parlant de cet enfant. « Juste le verset 33 du chapitre 1. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Sur la maison de Jacob. Et l'ange avait dit à Joseph, il avait parlé aux deux, hein, à Marie et à Joseph. L'ange avait dit à Joseph en Matthieu 1, 21, l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. À ce moment-là, ça concerne Israël. Mais pas seulement. Marie-Joseph n'avait pas encore tout compris à l'annonce de la naissance de Jésus. Parce que Dieu ne leur avait pas tout révélé d'un seul coup. Alors la foi est un cheminement. On n'a pas tout compris. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout compris tout de suite. Ou si vous êtes jeune dans la vie chrétienne, ou peut-être âgé. La foi, c'est un cheminement. Marie et Joseph sont passés par ce cheminement. Parce que Dieu sait ce qu'on peut recevoir. Combien on peut recevoir. Une chose est sûre, même si vous n'avez pas tout compris, Dieu s'occupe de vous, de nous. Il est fidèle, parce qu'il est fidèle. Les paroles de Siméon le ouvraient à Marie et Joseph des horizons bien plus vastes encore que ce qui leur avait été révélé jusqu'à là. La mission de l'enfant qui vient de naître dépasse le cadre d'Israël et a une portée universelle. Voilà ce qui leur a été révélé à ce moment-là. Jésus est le sauveur de tous ceux qui croiraient en lui, juifs et non-juifs. Exultation, joie, mais voici qu'arrive une ombre au tableau. Voici qu'au beau milieu de ce transport d'allégresse, eh bien, une ombre vient se rajouter au tableau. Siméon annonce que la mère qui est bénie, Marie, sera aussi une mère dans la douleur. Marie qui exultait à ce moment-là, elle exultait à la pensée que son fils allait s'asseoir sur le trône de David. Eh bien, elle apprenait que, à ce moment-là, qu'une épée lui transpercera l'âme par la bouche de Siméon et que les pensées de beaucoup de cœurs seront dévoilées. Parce que Jésus est la lumière. Et c'est inévitable, la lumière apportée par Christ dévoile les pensées des cœurs. Rien n'est caché aux yeux du Seigneur. Ce que nous ne voyons pas, lui le voit. Et la manière dont une personne réagit à l'annonce de l'Évangile révèle l'état de son cœur et ses sentiments cachés. L'Évangile, c'est vraiment... Ça va mettre en lumière ce qui est caché. Le résultat de la prédication de l'Évangile de Jésus-Christ, mort pour nos péchés et ressuscité, sera soit un retour à Dieu, soit de l'opposition. Il n'y a pas de neutralité. L'Évangile ne laisse pas indifférent, hein. C'était ce qu'on avait vu aussi la fois dernière dans l'Évangile de Marc. Le résultat de la prédication de l'Évangile de Jésus sera soit de l'amour et de l'obéissance, soit de la haine. Pourquoi ? Parce que les ténèbres sont opposées à la lumière. Les deux sont incompatibles. Lumière et ténèbres ne peuvent pas cohabiter, c'est pas possible. Est-ce que vous avez déjà essayé d'allumer une petite allumette dans une pièce sombre ? Ça suffit à chasser toutes les ténèbres. Il n'y a plus de ténèbres. Une simple petite lumière. Les deux sont incompatibles. La lumière chasse les ténèbres. Ce n'est pas le contraire. La lumière chasse les ténèbres. Elles ne peuvent pas cohabiter. Ce n'est pas les ténèbres qui chassent la lumière. C'est la lumière qui chasse les ténèbres. La venue de l'enfant Jésus apportera le jugement aussi bien que le salut. Et c'est la contradiction dont il est question au verset 35, dont a parlé Siméon. Et cette contradiction, elle aboutira jusqu'à clouer le Sauveur sur la croix, devant les yeux de sa mère, qui aura le cœur transpercé, l'âme transpercée. Douleur de voir son fils à la croix, sur la croix. Mais la douleur laissera à nouveau la place à la joie, comme après un accouchement, parce que Jésus ressuscitera 3 jours après sa mort. Jésus, le premier-né de Marie. Et Jésus, la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'est pas seulement le premier-né des enfants de Marie, parce que Marie a eu d'autres enfants par la suite. Il est aussi, je vous cite quelques passages, il est le premier-né dans beaucoup de domaines. Il est appelé le premier-né de toute la création, Colossiens 1,15. Le premier-né d'entre les morts, Colossiens 1:18. Il est ressuscité. Et il est aussi devenu le premier-né entre plusieurs frères. Romains 8:29. Oui, Jésus est notre grand frère. Et par sa mort et sa résurrection, eh bien, il n'y a plus besoin de racheter les premiers-nés pour Dieu. Il n'y a plus besoin depuis Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, sans péché, il est devenu en tout le premier. Et il a voulu racheter non seulement Israël, mais il a voulu racheter par sa mort le monde entier, toute l'humanité. Racheter de quoi ? De l'esclavage du péché. Et ce n'est pas seulement de racheter de l'esclavage du péché, c'est pour se faire un peuple qui lui soit consacré. Ce qu'il exigeait déjà d'Israël. Il veut se faire un peuple qui lui appartienne en propre, qui lui soit consacré. Et ce peuple, c'est qui ? C'est nous. C'est l'Église de Jésus-Christ. Alors oui, il suffit de l'accepter pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. On approche de Noël. Noël, c'est vraiment voilà, les cadeaux. Hein. Même les non-croyants se sont appropriés. C'est là où on fait beaucoup de cadeaux. Mais Noël, effectivement, on aime qu'on nous fasse des cadeaux, n'est-ce pas ? Je connais personne qui n'aime pas les cadeaux. Et quelle est notre part ? Quand on vous fait un cadeau, je prends cette illustration parfois avec des enfants. Je prends une tablette de chocolat et je lui tends la tablette de chocolat. C'est un cadeau, prends-le. Quelle est sa part ? Il a juste besoin de le prendre. Mais s'il ne le prend pas, la tablette de chocolat reste à moi. Et c'est moi qui peux m'en délecter. Il a ce geste de le recevoir. Il a ce geste de le recevoir. Notre part, quand on nous fait un cadeau, c'est de le désirer, de l'accepter aussi, ce cadeau. L'accepter et de le recevoir. Eh bien, Jésus est le plus beau cadeau, le coûteux cadeau de Dieu pour tous les hommes. Et pour nous, c'est gratuit. Mais pour lui, ça a coûté le prix fort de sa vie à la croix. Jésus se reçoit. La lumière se reçoit. Si les ténèbres ne reçoivent pas la lumière, elles restent ténèbres. Et Jésus se reçoit. Comment ? En croyant en lui, en son sacrifice, pour soi personnellement, et en se repentant de ses péchés. Jésus ne se mérite pas, il se reçoit. Il s'est rendu accessible aux hommes en s'incarnant en un petit enfant. Et oui, il faut de l'humilité. Il faut de l'humilité pour le recevoir. C'est pas facile de recevoir. Parfois, on veut payer ce qu'on nous donne, hein. Mais comment vous sentiriez si votre enfant tu fais un cadeau à ton enfant et « Papa, je vais te payer ton cadeau. » Comment vous vous sentiriez ? Le cadeau que Dieu nous fait, on le reçoit en Jésus. Et il faut de l'humilité pour le recevoir, sans se sentir absolument redevable. Sinon d'aimer les donateurs. Siméon l'a reçu. Il l'a reçu déjà dans ses bras, il pouvait le toucher. Mais il l'a aussi reçu dans sa vie. Il l'a reçu dans sa vie. Voyons mon troisième point, notre fidélité à Dieu dans le service et dans l'attente. Qu'est-ce qui a poussé ce jeune couple, Marie et Joseph, à aller au temple à Jérusalem pour accomplir la loi ? Qu'est-ce qui a poussé ce jeune couple à être fidèle dans leur piété, même en étant pauvre, même dans leur pauvreté ? Eh bien, c'est justement parce que Dieu a été fidèle envers eux. C'est la fidélité de Dieu qui a tenu sa promesse d'envoyer un sauveur. Et ça a fait des raisons de vouloir être fidèle à ce moment-là, d'aller au temple, de faire ce que Dieu, la loi, demandait. Marie et Joseph, qu'est-ce qui a poussé deux vieillards, Siméon et Anne, à attendre fidèlement, jour et nuit, pendant tant d'années, le Messie que Dieu avait promis ? Eh bien, c'est encore leur foi en la fidélité de Dieu. Ils savaient que Dieu est fidèle. Les quatre attendaient. Eh bien, Dieu a donné à ces quatre-là un rendez-vous divin, au même endroit, à la même heure. Celle où Marie et Joseph sont venus présenter Jésus. Même heure, hein, verset 38. Il y a une vieille chanson d'Édith Piaf, je me rappelle juste la fin, qui dit ceci. Qui se termine par « Dieu réunit ceux qui s'aiment ». On pourrait compléter en disant « Dieu réunit les humbles qu'il aime ». Et comment les réunit-il, les humbles qu'il aime, lui ? Il les réunit par et dans l'Église. Alors nous ne nous privons pas de venir à l'Église, de nous réunir, nous sommes l'Église. Lorsque nous sommes là, ce sont des rendez-vous divins que Dieu nous donne. Des rendez-vous divins. Jésus a été présenté prioritairement à qui ? Non pas aux grands de ce monde, mais à d'humbles et pieux vieillards, Siméon et Anne, qui ont rencontré Marie et Joseph, pieux et humbles eux aussi. Et leur attente, aussi bien que leur piété, ont été récompensées, puisqu'ils ont vu de leurs yeux Jésus le Sauveur promis. Oui, Dieu se laisse trouver et guider vers lui. Il se laisse trouver et il guide vers lui les humbles, ceux qui le cherchent, qui lui font confiance, qui veulent marcher en communion avec lui. N'en doutons pas, Dieu nous guide, nous sommes son Église. Il y a beaucoup de récits dans les évangiles qui montrent comment Dieu a guidé vers Jésus. Il a guidé les mages, il a guidé les bergers vers l'enfant Jésus, comme il a guidé aussi Siméon et Anne vers Jésus. Il guide tous ceux qui le cherchent. Siméon et Anne étaient âgés, ils ont attendu. Est-ce que nous saurons attendre ? Est-ce que nous saurons attendre Dieu pendant, nous attendre à Dieu pendant toute notre vie ? Que nous soyons jeunes, que nous soyons vieux, jeunes comme Marie et Joseph, couple dans la force de l'âge, que nous soyons mariés, que vous soyez célibataires, que vous soyez vieux, comme Siméon et Anne, est-ce que vous voulez attendre ? Vous attendre à Dieu tous les jours de votre vie ? Avons-nous le désir de lui être fidèles jusqu'à l'aube de notre vie, là où notre vie se termine. Si vous vous dites, moi je suis trop vieux maintenant, Dieu ne peut plus m'utiliser. Et combien il y en a comme ça dans les églises, des personnes qui pensent qu'elles ne servent plus à rien, parce que la société leur fait croire que les aînés, c'est bon, on va les ranger dans une EHPAD, ils ne servent plus à grand chose. C'est pas comme ça que Dieu voit. Et là on a un exemple flagrant, frappant. Si vous vous dites, je suis trop vieux, Dieu ne peut plus m'utiliser, regardez, Anne, 84 ans. Elle était restée veuve très longtemps après la mort de son mari. Alors, ne sous-estimons pas le ministère que les personnes âgées peuvent avoir. Parce que Siméon et Anne, ils avaient d'autres points communs que leur âge avancé. Ils étaient tous les deux prophètes. Ils attendaient tous les deux avec assurance la consolation et la délivrance d'Israël. C'est par prophétie par le Saint-Esprit que, comme Siméon, Anne a reconnu l'enfant Jésus. Elle a reconnu dans le petit enfant le Sauveur promis. Anne, qu'est-ce qu'on apprend sur elle ? C'était aussi une femme de prière. Elle louait Dieu. Elle le servait. Comme ça, jour et nuit. Et elle était même évangéliste. Oui, même à son âge, elle parlait de Jésus à tous ceux. Verset 38, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Une belle façon de vivre sa vieillesse. Alors une bonne façon de l'attendre, oui, d'attendre le Seigneur, c'est pas de rester sans rien faire, parce que, oui, bien sûr, on peut prier. C'est pas sans rien faire. Mais une bonne façon de l'attendre, c'est de parler du Sauveur à tous ceux qui sont sans espoir. Et il y en a de plus en plus. Les statistiques le montrent. Des personnes qui n'ont plus d'espoir dans l'avenir, voyant l'état de la planète, l'état de la société. Une bonne façon d'attendre Jésus, c'est de leur redonner, Jésus, c'est de leur redonner espoir à tous ceux qui n'en ont plus. Alors, on est presque à la fin de l'année. Qu'est-ce que vous attendez pour 2024 ? Certains attendent la paix. Aujourd'hui, on est vraiment dans un monde de guerre. La paix est très fragile, n'est-ce pas ? Mais certains attendent la paix, enfin la vraie paix. D'autres attendent un travail, d'autres attendent un conjoint peut-être, d'autres attendent le Seigneur lui-même. Nous ne savons pas s'il reviendra en 2024, mais en tout cas, vivons comme s'il revenait là, maintenant. Comment vivre en attendant ? Eh bien en l'attendant dans l'obéissance et la foi en ses promesses, à la manière de Siméon et de Anne. C'est parce que Dieu est fidèle que nous pouvons lui être fidèles à notre tour, en comptant sur sa grâce. Et si vous voulez une autre preuve de la fidélité de Dieu, ne cherchez pas plus loin. Si Jésus, le Messie, est devenu votre lumière et votre sauveur, vous qui faites partie des nations, eh bien votre présence même ici témoigne de sa fidélité. Vous êtes, nous sommes l'accomplissement de la prophétie de Simeon. Dieu est fidèle. Et il le sera encore. Amen. Je vais prier. Seigneur, c'est vrai que nous sommes dans un monde qui va de plus en plus mal, en tout cas, mais nous voulons, Seigneur, continuer de regarder à toi. Continuer, Seigneur, de nous imprégner de ta parole, de tes promesses qui sont toujours vraies, Seigneur, même si nous n'en voyons pas l'accomplissement là, maintenant. Aide-nous vraiment à attendre, à t'attendre, Seigneur, à nous attendre à toi, Seigneur. Et aussi, nous avons besoin de ton Saint-Esprit, Seigneur, pour traverser les difficultés de la vie, lorsque ça ne va pas comme on veut, Seigneur. Et pardon, Seigneur, lorsqu'effectivement on n'a pas su montrer la bonne attitude, pas donner le bon témoignage, Seigneur. Seigneur, nous te demandons de briller à travers nous de ta lumière, Seigneur. Voilà, de nous utiliser pour redonner espoir à ceux qui n'en ont plus. Et Seigneur, de nous aider à voir aussi tes rendez-vous, ce que tu nous fixes, Seigneur, aussi bien entre nous, frères et sœurs, qu'avec ceux de l'extérieur qui ne te connaissent pas encore. Aide-nous à voir ta main, Seigneur, par ton Saint-Esprit, et à nous laisser guider par toi, Seigneur. Et aide-nous à t'attendre, nous voulons t'attendre de la bonne manière. Et oui, comme tu t'es révélé progressivement à Marie et Joseph, et aussi, eh bien voilà, à Simeon et Anne, nous voulons, Seigneur, vraiment te voir, Seigneur, et dans tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu as en réserve encore pour nous, ton peuple, Seigneur, pour tous les projets que tu as pour nous, projets de paix et non de malheur. Seigneur, nous voulons vraiment regarder à toi. Donne-nous, Seigneur, de t'attendre dans la foi et l'obéissance. En Jésus-Christ. Amen. Amen.